Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff.
Alors la canicule, ça va, on tient le coup. Heureusement, nous avons protégé nos chères têtes blondes et brunies. Ils ne passeront pas le brevet tout de suite. C'est reporté à début juillet. Mais imaginez que début juillet, il fasse encore la canicule. Qu'allons-nous faire? Eh bien, ce sera en septembre, à Pâques ou à la Trinité. On verra. En attendant, on parle des libertés d'expression, on parle des journalistes et on reçoit l'un des plus grands écrivains français, Jean Raspail.
Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Les carottes seraient-elles cuites pour la liberté d'expression? Il paraît que les journalistes, ça ne suffit pas, la loi sur la presse de 1881. Ça ne suffit pas tout ce qui se passe. Ça ne suffit pas un certain nombre de retraits de YouTube, de Twitter, etc. Non, ça ne suffit pas. Il faut que les journalistes se contrôlent eux-mêmes. Ah bon? Et la liberté en France, c'est quoi? On en parle.
Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour.
Aujourd'hui, ma plume est alerte. Elle survole un nid de scorpions. Pour lesquels rien n'est pire, certes, que la liberté d'expression. Ces petits cancres là débiles ont courageusement fait la preuve qu'égorger est aussi facile que de filer une trempe à sa meuf.
Eh oui, Pierre Perret, il faut toujours revenir à Pierre Perret, à la sagesse et évidemment au talent de Pierre Perret. Eh oui, les petits cancres là, la liberté d'expression, ça leur plaît pas, hein. Alors certains égorgent, d'autres non, c'est quand même, heureusement d'ailleurs, beaucoup moins offensif et meurtrier, mais enfin, on voudrait savoir ce qui se passe quand le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, invite les journalistes à s'organiser. Et à s'organiser comment? Oui, ils trouvent qu'on n'est pas assez organisé, donc il faut qu'on s'organise, les journalistes. Eh bien, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, la création d'un conseil de l'ordre des journalistes. Il y a déjà une loi qui était là, qui spécifie bien les rapports concernant les fake news, concernant la diffamation, etc., concernant ce que peut faire le citoyen, ce que peut faire le juge, etc. Non, ça ne suffit plus. Il y a trop de haine, évidemment les réseaux sociaux, c'est pelé, c'est galeux, d'où vient tout le mal, et puis tout le reste, non. Et alors que dit Cédric O? Je considère qu'il doit y avoir un conseil de l'ordre des journalistes, et c'est très simple, c'est vous devez retirer, qui disent à l'État, vous devez retirer l'agrément de tel ou tel canard, mettre des avertissements. Et il dit, c'est très 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 simple, il dit, voilà, face à un contenu journaliste qu'il juge critiquable, un citoyen aura un autre recours que la saisine du juge ou de l'éditeur, c'était déjà ça. Et puis il attaque, alors Cédric O y compris, il attaque la chaîne RT ou Spoutnik, qui sont effectivement, d'après lui, des organes entièrement russes, ou en tout cas avec l'actionnaire russe, donc ça ne va pas du tout. Et il va dire, la chaîne qui a le plus de visibilité, c'est pas BFM, c'est pas CNews, c'est pas ceci, c'est RT. Alors il faut savoir de quoi on parle quand même, Cédric O. Vous savez, le monopole des fake news, ce n'est pas telle ou telle chaîne. Le monopole des fake news, ce n'est pas tel ou tel réseau social. Les fake news, encore une fois, il faut le dire, ça a toujours existé. La presse de propagande, la presse d'opinion, la presse qui défend, qui a tel actionnaire qui défend telle ou telle ligne. On ne peut pas dire que ça n'a jamais existé. Ça a existé même avant l'invention de l'imprimerie, avant Gutenberg, on sait très bien, les fausses nouvelles. Alors, dire que les réseaux sociaux ont le monopole des fausses nouvelles est évidemment un mensonge et une hypocrisie totale. Alors, un conseil de l'ordre en plus, mais en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, c'est d'ailleurs Françoise Laborde, notre amie Françoise Laborde le dit très 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 bien, mais il est complètement ravagé ce pauvre Cédric O. Et puis quand encore un tribunal d'exception? Mais écoutez, occupez-vous de vos oignons. C'est quoi cette histoire de conseil de l'ordre des journalistes?
Et un ministère de la vérité.
Absolument, on est en plein 1984 de George Orwell, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont décider de ce qui est fake news ou pas, de ce qui est bon ou pas, et on l'a vu, de ce qui est haineux ou pas. Et là, on a avancé, je ne sais, vous savez, c'est exactement, nous étions au bord du gouffre, et depuis, on a fait un grand pas en avant. C'est Laetitia Avia, qui a députée LREM, qui a déposé un amendement, et une loi d'ailleurs, qui veut, qui n'est pas encore heureusement votée, qui veut
enlevé justement les affaires de presse de la loi 1881 pour les donner au pénal. Oui, elles veulent que la diffamation, etc., soit dans le droit pénal, le droit ordinaire, ce qui est déjà pas mal. Et en plus, comme vous le savez, Mark Zuckerberg, le 10 mai dernier, a rencontré Emmanuel Macron, c'est pas la première fois. Eh bien, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? Eh bien, on apprend que Facebook fournira les adresses IP à la justice française. Voilà, ils ont dit que c'est très simple, c'est spécifique à la France d'ailleurs. Eu égard aux discussions qu'ils ont eues avec nous, ils allaient transmettre les IP, les adresses IP pour les contenus de haine en ligne qui seraient demandés par la justice, ce qui est une énorme nouvelle. Alors soyons nuancés là-dessus. Bien sûr que quand il y a des appels au meurtre, quand des appels à la haine, effectivement, bien sûr que ce soit transmis à la justice. Là, nous sommes absolument pour. Il ne s'agit pas de dire « Ah, attention, liberté d'expression », non. La liberté de provoquer à tuer, de demander le meurtre de X ou Y, ou la haine contre X ou Y, et la diffamation des extrémistes, quels qu'ils soient, eh bien, évidemment, c'est à transmettre à la justice. Sauf que, encore une fois, le problème, c'est est-ce que ça ne va pas passer à autre chose ? Est-ce que ça ne va pas passer ? Et c'est tout le sens du projet de loi de Laetitia Avia. C'est tout le sens de ce qui se passe avec le Conseil de l'Ordre des journalistes. C'est tout le sens de ce qui se passe en ce moment en France. C'est qui va mettre le curseur et où. Vous ne pouvez pas empêcher à un moment donné la nature ayant horreur du vide et encore plus de la concurrence que telle ou telle personne veut se venger de telle ou telle institution ou que de telle où il y ait des querelles entre établissements à la concurrence et il dit « Ah oui, attention, celui-là, il y a des fake news ». Non, je crois que, vous savez, la loi, elle était très bien, la loi de 1881, elle protégeait déjà dès qu'il y avait véritablement une atteinte à la vérité ou de la diffamation ou des appels effectivement au meurtre, n'en parlons pas, eh bien la justice pouvait agir, on pouvait saisir la justice, etc. Non, là, on veut renforcer. Mais on veut renforcer pourquoi ? On veut renforcer comment ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est-à-dire que, effectivement, Facebook, alors qu'est-ce qu'ils disent, Facebook ? Eh bien, c'est très simple. Il dit, voilà, on va fournir toutes les adresses IP, mais c'est intéressant, ça. Que pour la France, en tout cas, Cédric, qu'est-ce que ça veut dire que pour la France ? Ou c'est pour le monde entier, ou c'est pour l'Europe, et pas seulement que pour la France. Donc, première petite incartade, puisque effectivement on peut aller à l'étranger et donc faire ce qu'on veut. Et puis deuxièmement quand même, quand Cédric O dit ceci, il invite les journalistes à s'organiser pour lutter contre les fausses nouvelles et à la désinformation, faute de quoi c'est l'État qui s'en chargera. Attention, faute de quoi c'est l'État qui s'en chargera. Alors demain, si je comprends bien, si les journalistes ne se mettent pas d'accord, et ils ont raison de se mettre pas d'accord pour faire un ordre des journalistes, c'est loi, l'ordre à Varsovie, eh bien c'est l'État qui s'en chargera. Et qui à l'État ? Qui ? Les juges ? Un certain nombre de fonctionnaires ? Qui va décider ? Vous savez, il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire très attention. On doit être tous, auditeurs du Sud Radio, très sensibles à ça. Parce que, encore une fois, on sait comment ça commence. On sait, et Orwell et d'autres l'ont décrit très bien, et on sait aussi comment ça finit. Encore une fois, si nous sommes au bord du gouffre, ce n'est pas en marchant ainsi qu'on fera des pas en avant. Et on sait où on va en faisant des pas en avant.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Un conseil de l'Ordre des journalistes, 0826 300 300, sur Facebook Live. Les auditeurs qui nous suivent en vidéo et en direct n'y vont pas forcément par quatre chemins. On a Wolf Rick qui dit « L'État veut être le seul à balancer des fake news ». On a aussi Christian Geneste qui dit « Vous avancez de plus en plus vers une dictature déguisée en démocratie ». N'hésitez pas à nous appeler, hein, 0826 300 300.
Sud Radio, André Bercoff. Ça balance pas mal. Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal.
Tout nu et tout bronzé, on est bien, on est beau quand revient l'été. Tout nu et tout bronzé.
Ouais, quand revient l'été, tout nu et tout bronzé, dit Carlos. Mais Carlos n'était pas le militant laïque qui veut agir à Grenoble. Mais il y a une initiative intéressante, et on vous devait, auditeurs du Sud Radio, vous signaler. Après qu'il y ait eu, comme vous le savez, les deux happenings organisés dans les piscines grenobloises par des militantes favorables au burkini, au port du maillot de bain couvrant. Voilà, il y a eu ça, vous savez, elles ont dit oui, on a le droit de se baigner dans les piscines municipales, on a laissé faire à Rennes, on a laissé faire à Grenoble, et puis on veut continuer, voilà. Et bien, imaginez dans une piscine, je ne parle rien que pour l'hygiène et la sécurité.
mais ça va évidemment au-delà. C'est un acte politique, au sens le plus vert du terme. La meilleure preuve, c'est qu'elles se sont appelées elles-mêmes à Grenoble les Rosa Parks. Je rappelle simplement que Rosa Parks était une militante noire américaine qui avait pris le bus en pleine ségrégation. Alors, le comparer une militante noire américaine qui avait le courage d'affronter le racisme made in USA avec des femmes et des hommes d'ailleurs qui étaient là, qui ont un programme très précis de radicalisation, franchement, c'est un peu fort de café. Alors, il y a des gens qui ont décidé, description des mélanges Facebook, ils ont lancé un manifeste, il dit « Les islamistes veulent imposer le burkini dans les piscines de Grenoble. Le maire fait preuve d'un attentisme et d'une inaction préoccupante. » Eh bien, voilà ce que font les auteurs. Ils disent « On invite toutes les citoyennes et tous les citoyens grenoblois attachés aux valeurs de la République à se foutre à poil devant les commandos en burkini. » Alors ça va être très intéressant, ils veulent là tout bientôt, dans quelques jours, un événement qui est prévu d'ailleurs le 30 juin, très exactement, si vous êtes du côté de Grenoble, écoutez, allez-y, vous verrez, il y aura donc les femmes en burkini qui viendront, qui vont continuer à provoquer comme elles le font, et puis les autres qui vont arriver, effectivement, femmes et hommes, ils vont arriver effectivement à poil, comme ils disent. Vive la laïcité décomplexée contre l'islamisme, tous à poil pour faire bouger Éric Piolle, le maire de Grenoble. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être ONU-sois qui mal y pense. Ça va être quand même un combat singulier, passionnant. On va suivre la chose. Mais effectivement, est-ce qu'il y aura des réactions citoyennes ou pas? Je crois que le problème, il est posé à Grenoble, à Rennes, à Lille ou ailleurs. Il faut savoir où, comme dans les libertés d'expression, comme dans les libertés de la presse, jusqu'où on va trop loin, jusqu'où on dit stop, jusqu'où on dit au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable.
Midi 22 sur Sud Radio, 0826 300 300 pour nous appeler tous à poil.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. On est con.
Eh oui, Georges Brassens, faut toujours revenir à Georges Brassens quand on veut un peu de sagesse. Quand on est con, on est con. Et alors, écoutez cette histoire absolument magnifique qui s'est passée dans le Val-de-Marne. Alors, on sait qu'il y a des grandes chaleurs, on vous demande, attention, buvez beaucoup, nourrissez-vous bien, attention à ceci, attention à cela. Vraiment, on est en pleine période de la canicule, on l'a connu. Et il faut se protéger. D'ailleurs, on est allé, comme vous le savez, à sursoir aux épreuves du brevet. Enfin, c'est l'alerte générale, c'est tous aux abris, c'est le feu est dans la plaine, l'incendie est là, tous aux abris. Eh bien, face à ces grandes chaleurs, il y a un parent d'élève, Philippe Bouriachi, qui a décidé d'offrir 10 ventilateurs à l'école maternelle Romain Roland à Orly. Son fils y est, là-bas. Et donc, il a dit, voilà, c'est très très simple. Il dit, ce parent d'élève, dans la classe de ma fille, sans rideau ni store, il fait 40 degrés. Hier, même les professeurs m'ont remercié. Au final, avec cette décision, ce sont les enfants qui sont pénalisés. Pourquoi dit-il ça? Eh bien, tout simplement. Il avait offert donc 10 ventilateurs qui étaient arrivés, qui étaient livrés, etc. Eh bien, l'inspecteur de l'éducation nationale les a fait retirer au motif que le matériel scolaire doit être homologué. Et regardez, quand dans la bureaucratie, ça arrive vraiment à ces degrés, et c'est même pas les ronds de cuir, c'est je sais pas ce qu'ils ont à la place du cerveau, là. Il y a un problème, ils ont un réfrigérateur à la place du cerveau, je sais pas ce qu'ils ont. Voilà ce qu'ils disent. Ils expliquent l'Académie du Val-de-Marne que pour se prémunir de tout risque pour la sécurité des élèves et du personnel, tout matériel qui arrive dans une école du premier degré est soumis à un règlement en lien avec la commune et toute nouvelle installation doit d'abord passer par une procédure d'appel d'offres. Donc voilà, il fait 40 degrés, les enfants crèvent sous la chaleur. Ah oui, mais attention. Il faut suivre le règlement. Et donc, on fait un appel d'offres. Voilà, et ça va durer une semaine, 10 jours. Pendant ce temps-là, les gens vont avoir des malaises ou pas. Ils vont être vraiment crevés ou pas. Eh bien, non, ça n'a aucune importance. Ce qui est extrêmement important, c'est que la bureaucratie suive son cours. Quand on en arrive là,
quand on arrive vraiment ça, et le pauvre Philippe Bourriachi, le brave Philippe Bourriachi, qui est référent Europe Écologie des Verts à Orly, il avait déboursé de son propre gré et avec son propre portefeuille 400 euros. Eh bien, on lui a dit non, non, circulez, reprenez-les, on n'en veut pas, pour le moment, c'est l'inspection, voilà. C'est hallucinant qu'on en arrive à ce stade de bêtise. Vraiment, Brassens a raison, le temps ne fait rien à l'affaire.
Et on a Patrice qui nous appelle de Pau et qui veut réagir à ce que vous disiez, André Berkoff. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, Patrice.
Bonjour. Oui, bonjour, je suis Patrice, et je suis aujourd'hui apiculteur à Pau, dans le Béarn. J'étais gendarme pendant 30 ans.
Oui.
Et je trouve quand même, pour le moins dommageable, sinon scandaleux, qu'on veuille créer une instance pour contrôler les journalistes, alors que les journalistes sont encore, un peu à la marge peut-être, mais sont encore en contre-pouvoir. Je trouve ça parfaitement scandaleux.
Oui, oui, c'est... Oui.
Voilà.
Et vous trouvez que ça traduit quoi pour vous, Patrice, que le gouvernement veuille mettre en place ce genre de choses, alors que ça n'est jamais arrivé. Aucun gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, n'a voulu faire se créer un ordre des journalistes, etc. C'est quand même assez, effectivement, étonnant.
Ça traduit, je pense, une prise de conscience profonde des gens qui nous dirigent, que la machine elle tourne en boucle, et que je pense qu'il y a une grande partie de la population qui a compris que ces gens ne servaient que leurs propres intérêts et voulaient défendre leurs propres intérêts. Je veux peut-être pas.
Allez-y.
Ouais. Moi, je suis sur le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. J'ai été officier de police judiciaire, donc je connais bien le droit pénal. Sur le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, on crée des incriminations, quoi. Ouais. On crée des incriminations pour des infractions imaginaires. Les gens sont condamnés. La justice, une partie de la justice obéit à des ordres complètement illégaux. On est vraiment à la croisée des chemins. Je pense que Si la population se mobilise pas, si les gens vont pas de l'avant pour retrouver justement une expression démocratique et justement une information démocratique, parce que moi par exemple, j'essaie de m'informer via Internet parce que c'est les rares médias ou quelques radios comme vous qui avaient une voix un peu indépendante, quoi. C'est très difficile de s'informer aujourd'hui, de trouver des informations qui font pas le jeu de quelqu'un, quoi.
Ouais, voilà. Patrice, en tout cas merci. Écoutez, nous on va tâcher et on continuera d'être indépendant. Et vous avez tout à fait raison, les réseaux sociaux qui ont leurs qualités et leurs défauts aussi permettent de se faire une idée. Merci encore.
Merci Patrice. On a Philomène Cotta qui nous écoute et qui réagissait à cette histoire que vous évoquiez tout à l'heure de ventilateurs retoqués dans les écoles. Ils ont un hublot à la place du cerveau, c'est ce que nous dit Philomène Cotta qui nous suit sur le Facebook Live, la vidéo en direct. Dans un instant, Jean Raspail, écrivain, explorateur, il a reçu le Grand Prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Et il publie La Miséricorde. C'est aux éditions Équateur. A tout de suite.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff.
Et j'ai le plaisir de recevoir l'écrivain Jean Raspail qui vient d'écrire La Miséricorde après des années de fusion, de manducation et de travail. Mais surtout, je le dis encore une fois, qui avait tout prévu. Tout vu dans cet ouvrage absolument magistral qui s'appelle Le Camp des Saints, qui date de 1973. On en parle.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Jean Raspail, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, je suis vraiment très heureux de vous recevoir parce que vous savez, il n'est pas si fréquent d'avoir des écrivains qui ont raconté quelque chose qui, à l'époque, n'existait pas. Évidemment, vous allez me dire, c'est la littérature, c'est la vision, c'est l'appréhension, et quelque chose qui n'existait pas du tout en 1973. 1973, vous voyez, c'est pas hier, c'est il y a 45 ans, 46 ans. Oui. Vous écrivez Le Camp des Saints, où vous racontez, effectivement, on va en parler longuement, des embarcations qui arrivent en Italie, en France, en Méditerranée, et qui débarquent, et que ce sont les damnés de la terre, les pauvres, et qu'est-ce qu'on en fait? Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'actualité depuis 10 ou 20 ans vous a non seulement rejoint Jean Raspail, vous a dépassé, sauf que ce qui est indépassable, c'est la manière dont vous racontez ça et le style de l'écrivain. Parce que je rappelle que Jean Raspail, c'est pas seulement Le Camp des Saints, c'est énormément de livres passionnant que je conseille à tout le monde de l'âge des steppes chez Robert Laffont, qui se souvient des hommes, énormément de bouquins, et puis le moi Antoine Tounens, roi de Patagonie. Et je dis que si je suis allé en Patagonie, c'est parce que Jean Raspail, j'ai lu Antoine Tounens, le roi de Patagonie, et j'espère que je serai citoyen patagon, et soyez-le aussi auditeur de Sud Radio, parce que c'est formidable. Et alors là, Jean Raspail, vous publiez La Miséricorde aux éditions des Équateurs, et La Miséricorde, c'est un roman, mais enfin c'est un roman qui cache un drame horrible qu'on a connu, je vais nommer le nom, vous avez fait un roman, c'est l'histoire du curé du Ruf. Et pourquoi, vous n'avez pas voulu raconter avec les noms l'histoire du curé du Ruf?
Ce n'est pas le crime qui a attiré mon attention. Toute la France a tremblé, c'était une chose assez affreuse.
Il faut rappeler Jean Raspail juste que donc il avait eu un enfant avec une, enfin il avait eu un enfant,
il avait une maîtresse, il avait fait un enfant à sa maîtresse. Pour se débarrasser de sa maîtresse, parce qu'il n'avait pas le droit d'en avoir une, il était prêtre, il l'a assassinée. Elle avait un bébé dans le ventre, une fille. Il a ouvert le ventre et il a tué le bébé. Et il l'a même, paraît-il, défiguré.
Pour qu'on ne le reconnaisse pas.
Et il l'a baptisé.
Et mais il a quand même nié pendant très longtemps. Il a baptisé, c'est terrifiant.
Évidemment, c'est une des plus grandes horreurs qui puisse arriver à l'église, mais c'est il y a longtemps. Mais je suis certain que c'était un désaccès ou une sorte de monstre qui ne se comprend pas encore. Mais je suis certain que c'est un homme de Dieu et que s'il a voulu baptiser le bébé, c'était pour qu'il aille au ciel. Et également, j'ai oublié de vous dire qu'il a donné les derniers sacrements de pénitence, donc les derniers sacrements à sa femme avant de l'assassiner.
Oui, mais enfin,
alors, il y a une chose qui était à la fois horrible, c'est le crime, mais qui était à la fois étonnante chez le curé du Ruf, que moi j'ai appelé le curé de Bief, Charles Lébègue, je l'ai appelé.
Oui.
C'est qu'il n'a jamais quitté, si je puis dire. Il savait que Dieu le surveillait, le guettait, allait faire quelque chose, etc. Cet homme vivait avec Dieu. Et c'est pour ça, quand il est entré en prison, il a commencé à faire des gravures religieuses sur les murs. Un jour, dans la cour, il y a eu une bagarre entre prisonniers. Et puis, il y en a un qui est mort. Il s'est précipité pour lui donner l'absolution.
Jean Raspail.
Je ne défends pas ni le personnage, ni le crime.
Oui.
Ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'il allait faire devant Dieu. Parce qu'il faut quand même savoir que les prêtres à qui on a donné un sacrement prêtrise ou de monastique, les prêtres ont toujours les yeux d'abord vers Dieu et que tout ce qu'ils font concerne Dieu.
Oui, mais enfin, il avait des yeux vers les femmes, mais ce n'était pas sa première maîtresse, vous le savez, vous le racontez. Et en fait, non, ce que je veux savoir, parce que, bon, vous l'avez dit vous-même, c'était quand même un monstre, un homme de Dieu peut-être, mais un homme aussi de l'enfer, enfin, il y a quelque chose, je parle. Mais qu'est-ce qui vous a... Parce que vous racontez, en fait, en postface, que ce roman, vous le portez depuis des années et des années, en fait. Et qu'est-ce qui a fait deux choses? Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis tant d'années à faire? Et d'ailleurs, il est inachevé, vous le dites vous-même, d'ailleurs, vous n'avez pas voulu finir, enfin, vous l'avez laissé comme ça. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez mis autant de temps à le publier, à le sortir, quoi?
Parce que c'était très difficile pour moi. Je n'avais pas assez de socle.
Oui.
Peut-être peu à peu, si vous voulez, à force de m'intéresser à ça, mon socle s'est construit.
Oui.
Alors, il faut bien dire que ce que j'ai écrit est un roman. Je ne sais pas du tout
ce qu'a
fait le Charles Lébègue dans sa prison. Il a fini par en sortir. Et l'Église l'a fait entrer dans un monastère, c'est courant, où il a fait pénitence. Après,
on le fait oublier, bien sûr.
Donc, pas du tout ça. Ce qui m'intéressait, c'est comment allait-il retrouver Dieu. En fait, pour tous les catholiques ou les chrétiens croyants, les catholiques croyants, ou même ceux qui ne croient pas, on est en face de Dieu. Donc, quel que soit. Et alors, il faut faire attention aussi à ce que je veux dire, je vous demande pardon.
Je vous en prie.
C'est que j'ai commencé ce livre sans savoir absolument où j'allais. Je dis dans le livre que je me suis occupé pendant des années de ce prêtre, que je l'ai emmené avec moi. Pour ouais. un... C'est pas vrai. J'ai écrit sur lui des choses que j'ai romanesquement inventées.
Inventées, bien sûr.
N'est-ce pas ? Son retour vers Dieu, ça, mais ça peut, c'est très possible. Il a bien peut-être sûr. Fait d'une autre façon.
Oui, vous avez fait, c'est votre imagination voilà. qui a fonctionné.
Ouais. Oui, mais je peux pas appeler ça mon imagination, parce que c'est curieux, c'est comme pour le camp des saints. Une phrase est venue, et le reste a suivi. Le camp des saints m'en avait parlé. Je vais vous dire comment ça s'est passé.
Oui, comment ça s'est passé,
le camp des saints. C'est tout simple. Ouais. J'étais ouais. dans mon bureau d'une maison que ma tante me prêtait, près de Boulouris, face à la mer. C'était mon bureau d'écrivain. J'écrivais autre chose, je vois la mer. Et à un moment, il y a une phrase qui m'a traversé. « Et s'ils arrivaient ?» S'ILS. Ouais.
Comme ça, et s'ils arrivaient c'est-à-dire, vous regardiez la mer et vous voyez des embarcations.
Et c'est ça qui m'est venu,
ouais.
et s'ils arrivaient. Et à ce moment-là, le livre est venu quasiment tout seul, c'est écrit très facilement. Je terminais le soir sans savoir ce qui allait se passer le lendemain ça reprenait. Il y a eu certainement un lien quelconque, une sorte d'inspiration particulière.
Vous diriez divine m'a...
Non, je ne peux pas dire ça, mais particulière. Mmh. Du sacré. Et je dirais que pour le Miséricorde,
oui.
c'est exactement ce qui
même
s'est
chose.
Passé.
D'accord.
Sinon que, en ce qui concerne la Miséricorde, j'ai eu une éducation religieuse assez solide de mon enfance. Je suis allé dans des collèges religieux où il y avait beaucoup de prêtres. D'ailleurs, j'ai toujours beaucoup de respect pour les prêtres. Puis quand j'étais dans des villages, on habitait un peu dans des villages, il y avait des prêtres.
C'est toujours quelque chose. Vous habitiez où à l'époque ?
À l'époque, on habitait la Touraine.
La Touraine, d'accord.
Ouais.
D'accord.
Et les choses se sont construites très, très simplement.
Donc, vous... Oui.
Et j'arrive même... Je ne cherche pas comment marche ce processus. Quand j'ai, par exemple... C'est une partie du livre assez curieuse. Quand l'évêque fait son tour, de connaissance avec ses nouveaux prêtres, le nouvel évêque,
oui.
il va dans les presbytères,
oui, presbytères
et
oui.
il s'aperçoit de la solitude de ces prêtres, de leur misère, de leur manque de moyens, de leur manque de distraction, de leur manque d'air extérieur. Il a tout de suite tout compris, lui. Ce que m'a écrit un évêque, d'ailleurs, récemment, ce que les évêques n'ont pas compris et que vous avez, vous n'avez pas bien compris. C'est quand même assez curieux, mais c'est comme ça. Mais... Je n'ai fait aucune étude là-dessus. Je n'ai jamais médité là-dessus. Ça n'a pas pris la totalité de mon temps pendant des années.
C'est votre
inspiration. Comme un spécialiste ou un sociologue ou n'importe quoi qui se met sur un sujet et qui, pendant 5 ans, s'en met plein la tête pour écrire quelque chose. Non, ma tête était vide. C'est venu.
Et c'est ça qui était intéressant. C'est venu comme le camp des saints est venu.
Oui.
C'est ça.
Oui.
En fait, ça arrive, ça advient, et puis vous l'écrivez.
Oui.
C'est ça. Et ce qui est extraordinaire, et dites-moi, quand vous avez juste le camp des saints, vous l'avez écrit en combien de temps, à peu près ?
Un an et demi, largement.
Un an et demi, d'accord.
Mais je travaillais tous les jours.
Ah ouais, oui, quand même.
Oui,
ouais. Oui, non, parce que la Miséricorde, ce qui est très intéressant, vous le racontez, justement, vous l'avez porté pendant des années.
Ah oui,
et
je
à
l'ai
un moment
porté
donné,
dans ma tête, c'est pas
l'écriture.
Aussi que je l'écrivais tout le temps. C'était très difficile à écrire, il fallait construire quelque chose qui tienne cette histoire. Et quand j'ai trouvé le socle, ben, ça va. Bon, je ne veux pas, comment dirais-je, exagérer. Mais je veux exagérer, tant pis.
Mais
je suis très fier de ce livre, La Miséricorde.
Mais vous pouvez.
Il aurait été impossible pour moi d'écrire ce livre il y a quelques années ou quelques... Je ne sais pas comment il est venu.
On va continuer à parler avec Jean Raspail. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Et il a surtout beaucoup de choses à nous dire.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et nous continuons notre face-à-face avec l'écrivain Jean Raspail. Le très grand écrivain Jean Raspail, je le dis, qui a écrit énormément de choses. On a parlé de La Miséricorde, son livre le plus récent. Et nous allons évidemment raconter quelque chose qui a quand même été extraordinaire parmi tous ces livres. C'est que hier encore, on a vu dans toutes les images des réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, Jean Raspail, mais c'était un peu partout, sur les réseaux sociaux. À l'époque, en 113, ça n'existait pas, ni Internet, ni réseaux sociaux. On a vu un grand paquebot de passeurs arriver, mettre un certain nombre de migrants sur des petites embarcations. Et ces embarcations allaient, étaient recueillies par des navires d'associations caritatives, etc., pour les amener vers l'Italie, la Méditerranée et la France. Et depuis des années et des années, ce mouvement énorme et qui suscite aujourd'hui tout ce qui se passe en Europe, les élections, les populistes et autres, est dû aussi à ces mouvements en Méditerranée. Et vous, il y a, je le répète, qui a 46 ans, vous avez écrit un livre, alors vous dites que ça a commencé à « Et s'ils arrivent ?» Mais comment vous avez pensé « Et s'ils arrivent quoi ?» C'est la misère du monde du Sud qui arrivait en Europe, dans les riches territoires d'Europe. Comment c'est venu, cette construction, au départ?
Il m'est arrivé cette phrase.
Oui.
« Et s'ils arrivent ?»
Quand est-ce que vous avez pensé à qui pouvaient être ces îles?
Parce que souvent, je regardais la mer, souvent. J'ai eu des bateaux, moi, j'ai navigué, j'ai... Chaque fois, je me disais que la mer ne suffirait pas à séparer l'Europe de tout le reste. Mais c'est des réflexions en passant comme ça.
Bien sûr. Mais vous pensiez qu'à un moment donné, il y aurait des migrations.
Oui. Oui. C'était inévitable. Je ne comprends pas comment tout le monde ne s'est pas mis à penser à ça. C'était inévitable.
Oui, parce qu'à l'époque, personne n'en parlait.
Comme la fin qui nous attend est inévitable aussi.
Oui. Vous disiez que de toute façon, les gens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée ou d'ailleurs, qui n'ont pas évidemment le même niveau de vie, et bon, ont envie d'avoir ce même niveau de vie et vont arriver. Est-ce que ça vous a... Non mais je veux dire, parce qu'il y a eu, c'est très bien la phrase, mais après, vous avez quand même décrit, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, au-delà du talent de l'écrivain, vous avez écrit une situation que l'on vit tous les jours depuis des années. C'est quand même pas rien, quoi. Et vous dites, c'est arrivé comme ça. Alors, comment ça a été accueilli, à l'époque, le camp des Saints, Jean Raspail?
Le tirage a été énorme, mais il y avait deux camps. L'un qui...
C'est le cas de le dire,
qui détestait ce livre, qui me traitait de tous les noms. Et l'autre camp, bon, c'est pas compliqué, je vous signale que ces deux camps existent toujours. Enfin, ils existaient encore il y a quelques années, c'est la droite et la gauche.
Ah, c'était voilà. Ça. C'est-à-dire que les critiques de gauche vous ont éreinté.
Alors... complètement, les critiques de droite, mais c'était un moment où la gauche et la droite étaient plus intéressantes, si je puis dire, qu'elles ne sont maintenant, voyez-vous.
Oui.
Il y avait une droite avec des grands types, des types intelligents.
Elles ont un peu disparu,
costauds,
hein. Oui.
Il y a une dizaine d'années, oui. Et il y avait une gauche qui avait également des têtes, hein, quand même. Bon, oui. Mais tout le monde s'y est mis. Mais
et vous avez été très critiqué, très, je veux dire, par un certain camp.
J'ai été réhabilité.
Oui.
Quelques années plus tard, c'était avant la mort de cet calvinicien écrivain,
oui.
Que je connaissais un peu, Poirot Delpech.
Bertrand Poirot Delpech,
de gauche.
Critique au Monde, absolument.
Eh bien,
journal
dans
le Monde,
il a écrit « Il faut cesser d'insulter Jean Raspail, il avait raison ».
Ah oui, d'accord. Donc il y a eu une
évolution. À ce moment-là, c'est Poirot Delpech. Hein.
Mais ouais.
Il était de gauche, mais je le connaissais un peu quand même.
Mais
d'abord,
ouais.
Gauche et droite, ça ne m'empêche pas de les lire, ou je ne suis pas sectaire,
bien sûr,
moi.
Bien sûr.
Si je ne suis pas sectaire, je ne veux pas.
Mais la gauche et la droite, aujourd'hui, voilà. Ça ne veut plus rien dire.
Et voilà, enfin, bon. Et à ce moment-là, on m'a fichu la paix.
Ah, on vous a, oui.
Ah, complètement. Mais il y a encore quelques attaques, mais non, c'est fini.
Oui, mais alors quand même, il y a eu quelque chose de très intéressant. En 2011, a été réédité Le Camp des Saints.
Oui, et j'ai fait une préface.
Chez Robert Laffont, et vous avez fait une préface que j'ai lu, et vous avez quand même collationné les passages où vous disiez qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas écrire ça sans vous faire attaquer par des associations, attaquer au pénal, ou en tout cas attaquer en justice, par des associations.
Eh bien,
donc, est-ce que ça a évolué? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose, ça?
Ça veut dire que ce n'est pas les partis, ce sont les... Attention, je ne vais pas donner leur nom. Ce sont les associations, les comités...
Oui, antiracistes ou autres,
oui,
etc.
C'est ça, voilà. Qui passent leur temps à faire des procès à une... Mais ils pouvaient l'essayer.
Ouais.
Seulement, je ne citerai pas le nom de mon avocat parce qu'il est très, très connu. Et mon avocat a étudié le problème, il m'a dit, mais ils perdront le procès, ils le perdront, ils ne pourront pas le faire.
Non, mais
alors,
même la possibilité qu'il le fasse, oui.
Je me suis dit, à ce moment-là, Ça m'est venu, et l'avocat trouvait ça très amusant, et c'est lui qui m'a indiqué tous les points où je pouvais être attaqué. Tous les mots, les phrases. Et en effet, plusieurs pages à la fin du livre, avec le numéro de la page et le numéro de la ligne.
Oui, nous l'avons
et
lu,
ça,
je l'ai lu.
Ça, ouais. ça, j'en suis assez content.
Est-ce que le politiquement correct aujourd'hui, est-ce que la liberté de penser ou d'écrire a régressé ou pas, à elle votre avis?
Elle a régressé.
Elle a régressé.
Oui, mais honnêtement, je me fiche un peu de tout ça. Bon, c'est vrai, je lis un peu les journaux, on dit qu'elle a régressé, c'est vrai, il y a des écrivains qui ont été un peu embêtés. Ben, qu'est-ce que vous voulez, tant pis, il pleut, il fait beau, il fait quoi? Et je ne sais pas, moi, il y a un orage ou il n'y a pas d'orage, c'est ça pour moi. Si on veut tuer la liberté d'expression, je ne tiens pas compte de ça. Si j'étais... je l'ai fait, si vous voulez, dans certaines chroniques, dans le Figaro. Mais à ce moment-là, on n'y touchait pas trop, Figaro. Hein.
Ouais. Voilà. Mais vous dites, de toute façon, un écrivain ou un artiste doit suivre sa pente, son cours, et pas se s'occuper de ça.
Exactement.
D'accord. Et vous, vous n'êtes jamais occupé de ça, en fait.
Non.
D'accord.
Non.
Oui.
En revanche, je ne suis pas du tout partisan de l'immigration générale. Hein.
Ouais.
Pas du tout. Parce que les nations ont été créées, mettons par Dieu ou par qui que ce soit, les nations sont un agglomérat, une agglomération de populations identiques ou très proches l'une de l'autre dans les pays dans lesquels ils vivent et qu'ils connaissent, qui se sont développés, qui ont créé une civilisation, une façon de vivre à eux, etc. On ne peut pas casser ça. Voilà.
Une même culture, une même valeur.
Il serait aussi, aussi impossible. Enfin, moi, je refuse l'immigration de ce genre en France. Et de même que je conçois très bien que les autres pays, pas moi, l'Afrique un jour, refusent de prendre des immigrés autrement.
Oui, d'autrement.
Les nations, il faut pas les. C'est pas un bouillon, c'est pas une Macédoine.
Oui, c'est pas une salade russe.
C'est un peuple. Ouais. Il faut pas toucher à ça. Si on touche à ça, on touche au cœur de la nation. Et ça, je le dirai toute ma vie.
Et comment vous expliquez que justement des gens qui apparemment disent que ce sont des patriotes sincères ou des souverainistes et autres laissent faire? C'est ça qui est étonnant quand même, en disant oui, bon, c'est pas grave. Ou alors on vous traite de réactionnaire, de raciste et autres épithètes du même calibre.
Il y a deux réponses qui se mélangent d'ailleurs. Les hommes politiques ne prennent jamais parti, surtout jamais, pour des raisons simplement électorales, parce qu'ils perdront, voilà, c'est tout. Mais il y a beaucoup de gens, même moi à la rigueur, si vous voulez, ils se disent que ça peut être en effet assez cruel de refuser de laisser entrer des malheureux, des crèves-la-faim, des enfants, des choses comme ça. Bon, ma réponse, elle a été donnée dans le Condessin à un moment, dans certains chapitres. Quand on dirige un pays, je parle pour le président de la République ou le gouvernement, il ne faut pas hésiter à être dur et cruel si on veut le sauver. Ça ne se fait pas, c'est pas possible. C'est une faute. Alors évidemment, les chrétiens disent, mais non, pas du tout. Non, moi je ne suis pas, je suis catholique, mais je suis pour l'interdiction, sauf dans des cas tout à fait particuliers.
Bien sûr.
Quand on aura trouvé des cas tout à fait particuliers, bon, et très surveillés, peut-être on peut en effet ouvrir une fois de temps en temps.
Non, mais...
Comme le droit d'asile.
Non, si mais bien sûr, et puis vous savez
mais
très
non,
bien.
Mais non, mais pas des masses, surtout pas.
Non, c'est ça, c'est le problème de l'immigration massive
mais
que
oui,
vous posez.
Parce, que
parce qu'il y a des tas d'étrangers qui sont aussi français que les Français.
Plus il y en a, plus il y en arrive.
Ouais,
voilà. Ouais.
En tout cas, juste, il faut que je vous dise, dans un livre que je vous recommande, Jérôme Fourquet, le directeur opinion de l'IFOP, a parlé de l'archipel français.
Oui,
et justement, il a dit que ce serait des isolats et on va vers ça. Merci, merci Jean Raspail. Et lisez La Miséricorde et relisez si vous ne l'avez pas lu ou sinon précipitez-vous, notamment sur Le Camp des Saints et moi, Antoine Toudens, roi de Pacte d'Agonie, parmi les autres livres.
Merci Jean Raspail, écrivain explorateur, grand prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre et qui publie La Miséricorde aux éditions Équateur. À demain midi, André, pour le retour de Berkov dans tous ses états. Dans un instant, Jacques Pessis reçoit Laurent Romeshko, vous savez, la météo, des chiffres et des lettres, les clés d'une vie de 13 à 14 heures sur Sud Radio. Bon après-midi.